dernier jour. Alors, avant de reprendre un peu ce que nous disions hier, je vais regarder les quelques questions posées. Puis on va préciser les dernières questions. Pour finir en beauté, c'est-à-dire pourquoi aujourd'hui partir de Saint-Thomas. Ça, c'est finir en beauté, vous voyez. C'est la gloire. Hein. Alors, une petite question qui me mettait que le pluralisme théologique peut-être se fonder sur ce qui est dans l'Apocalypse, la correction des sept églises. Alors, j'ai dit non. Parce que cette correction des sept églises, c'est une correction. Ça fait partie du gouvernement divin. C'est très éclairant pour le gouvernement divin. Et c'est le gouvernement divin. C'est Dieu qui corrige les églises, et Jésus seul corrige les églises. C'est pas les théologiens qui corrigent les églises. Ça, c'est la révolte des serviteurs. Quand les théologiens écrivent au pape pour corriger le pape, c'est la révolte des serviteurs. C'est-à-dire, c'est des Hégéliens. Serviteurs qui prennent la place du patron. Ils ont le droit de dire au pape, très Saint-Père, je ne comprends pas telle chose. Comme quand un religieux ne comprend pas ce que son supérieur dit, il lui demande, mais il ne va pas se mettre à le corriger publiquement. Sur le tableau des annonces, aujourd'hui, correction publique de notre prieur, parce que vraiment, il se conduit très mal. Ça peut arriver, parce qu'on est dans ce climat-là, ça peut arriver. Mais ce n'est pas cela qui va nous donner la vision. C'est intéressant pour les sept défauts. Ce serait à mettre en parallèle avec les 11 premiers chapitres de la Genèse. Puisque la Bible commence par des corrections et elle termine par des corrections. Et ce n'est pas une lumière. Alors on me fait la remarque que c'est cette manière de saisir le Christ, cette manière de vivre du Christ, c'est pas la même chose. Oui, les parties de la théologie regardent toute la théologie. C'est des parties intrinsèques, c'est pas des séparations, je vous ai dit. Tandis que là, c'est nettement cette Église qui représente, d'une certaine manière, la manière plénière de sa grâce, de sa bonté. Les sept manières de recevoir la plénitude. Mais c'est d'ordre pratique. La théologie reste quand même toujours une sagesse. Dans la théologie scientifique, saint Thomas a donné une certaine structure. Alors ça, on va regarder ça tout à l'heure avec saint Thomas. Hein. Saint Thomas d'Aquin. Père, peut-on dire que sans l'incarnation, il n'y aurait pas de mystique possible, si ce n'est de façon métaphysique, mais métaphorique. En effet, Dieu est notre fin, déjà comme créateur, mais la causalité exemplaire qui structure n'est-elle pas possible entre Dieu et nous que par l'incarnation? C'est ce que je crois. Je ne vois pas qui oserait dire qu'il est modèle. Adam, c'est pas Ève, c'est pas les anges. Quand le modèle ne peut être que l'homme assumé par Dieu. Le modèle dans la vie divine. Pas dans la vie humaine. Dans la vie humaine, les héros étaient des modèles. C'est toujours des modèles comme ça. Mais ce sont des modèles très partiels et puis pour un temps. Héros grecs, c'est pas vos modèles. Et les saints sont modèles en fonction du Christ, pas en eux-mêmes. Il faut faire toujours attention. Ce serait de la dévotion. Et qui nous conduirait à quelque chose de faux. Je vais imiter la petite Thérèse. Surtout pas. Vous allez faire un plagiat à la place de devenir sainte. vous imitez Marie. Et la petite Thérèse vous aide à comprendre Marie. Vous imitez le Christ. Et la petite Thérèse vous aide à comprendre le Christ. Tout le temps venir au Christ et à Marie. Vous ne pouvez pas imiter Saint-Philippe de Néry. Ça en fera du propre. Parce que justement, la sainteté est quelque chose d'extrêmement concret dans tel milieu. C'est là la différence entre la dévotion et le regard théologal. C'est pour ça que je crois qu'il n'y aurait pas de théologie mystique en dehors de l'incarnation. De théologie, là, je parle bien. Il y a une vie mystique. Autre chose est la vie mystique d'un saint Jean de la Croix. Autre chose une théologie mystique. Le théologien qui fait une théologie mystique n'a pas nécessairement les mêmes grâces que saint Jean de la Croix. Mais il a quand même l'expérience des dons du Saint-Esprit. Le père Chenu disait constamment ça. Il y avait une part de vérité qui me frappait toujours beaucoup. Le père Chenu disait, un vrai théologien doit avoir une expérience mystique. Je ne conçois pas du tout un théologien scientifique qui n'ait pas cette expérience. C'est très vrai pour l'explicitation de la théologie dans sa totalité, impliquant la théologie mystique. Je crois que quelqu'un qui n'a aucune expérience de la vie intérieure sous le souffle de l'Esprit Saint ne peut pas faire une théologie mystique. La foi chrétienne réclame la mystique. Bonne théologie thomiste, pas suarésienne, ou moliniste. Parce que pour eux, c'est de l'extraordinaire et du charismatique. Le charismatique ne fait pas partie, voyez, au sens strict. Je ne peux pas baser une théologie à partir du charismatique. Impossible. Mais je dois, dans la théologie, situer les charismes. Ça c'est sûr. Au niveau théologie scientifique, au niveau théologie mystique, et au niveau de la vie de l'Église. Mais non, trois points de vue différents. Pourriez-vous repréciser la question de la gloire, se situant au niveau d'une théologie mystique? Ne pourrait-on pas distinguer à l'intérieur même de la théologie mystique l'aspect de la croix plus proche de la causalité exemplaire et l'aspect de la gloire plus proche de la causalité ultime finale? Ah non, la gloire n'est pas une fin. C'est la manifestation de la fin. Confondons pas. Ne confondons pas. La fin, c'est l'amour. La manifestation de l'amour n'est pas la finalité. Et c'est là aussi, c'est la confusion du néoplatonisme. Très séduisant, comme serait séduisant, de mettre ma fin dans la gloire. La finalité de Dieu, c'est qu'il est bon. C'est la bonté de Dieu et son amour. La gloire fait partie de son amour. Mais voyez, c'est pas ce qui caractérise. C'est pour ça que c'est à l'intérieur de la théologie mystique que je regarde le point de vue de la gloire. Mais je ne fais pas une théologie de la gloire. On a raison de sortir, je vous l'ai dit, il faut sortir tout ce que vous avez dans l'estomac. Et pourquoi, de fait, ne pas poser une théologie de la gloire, se servant de la théologie naturelle, la ratio, amour, amoris, est-elle vraiment la même? Pouvez-vous préciser? La théologie de la gloire, c'est la beauté, c'est la splendeur. C'est pas du là, je crois. Pour comprendre la gloire personnelle, vous voyez, la gloire que me donnent les autres, provient d'une action héroïque. Toujours, je fais la première analogie, la gloire humaine. Ça provient d'une action héroïque, visible. On est le sauveur d'un pays. On sauve un pays. C'est pour ça que la plupart du temps, ce sont les généraux qui portent la gloire d'un pays. après une victoire. La victoire. Général Jephté. Judith. Ça représente la gloire. Et il s'est crié, il s'est dit. Et quand il est dit, il est prophète, il s'est bien Simon, tu la gloire d'Israël. La gloire d'Israël. Guide. Qu'est-ce que c'est que la gloire? J'ai beaucoup, beaucoup travaillé la gloire, personnellement. J'ai lu certaines thèses qui étaient faites sur la gloire au point de vue exégétique. C'était intéressant. Mais qu'est-ce que c'est que la gloire? La ratio de la gloire. Et je vois très bien ce que c'est que la gloire. Je me souviens, c'était un chapitre d'un bon père prieur. À un moment, on parlait beaucoup des Dominicains. Alors il a commencé son épître en disant que on n'a jamais tant parlé de nous. Alors est-ce que c'est la gloire? Ça dépend comment. Si on parle en critiquant, c'est pas très glorieux. Si on parle en glorifiant, oui, très bien. Gloire humaine. Les médias. Vous voyez, les médias faussent tout. Ça, je crois qu'on peut le dire. Ils faussent toutes les valeurs humaines. Parce qu'ils mettent en premier lieu la gloire. On est dans un monde où la gloire est première. Les médias veulent pousser. Vous savez bien, quand on a refusé le monde, le journaliste du monde qui venait à Saint-Jonas, il a dit, non, pas besoin de nous. Pas besoin de nous, quand même, le monde. C'est le journal le plus important. Alors vous refusez ça? Oui, on refuse ça. Pourquoi vous refusez ça? Parce que on n'a pas besoin de ça. On vit pour le Christ et on vit caché. Mais pas comme monsieur tout, ça l'a scandalisé. Bon scandale. Parce que ça l'a obligé de montrer que une vie religieuse n'est pas faite pour la gloire. Elle est faite pour vivre la vie de Nazareth. Si Jésus avait vécu pour la gloire, il n'aurait pas vécu à Nazareth. Regardez quelle est la gloire du Christ. Puisque l'Église imite le Christ. Elle a la mission. Quelle est la gloire du Christ? Elle est après la vie. Elle est dans le ciel. Sur la terre, on vit le mystère du ciel dans la foi et dans l'espérance, c'est-à-dire dans la pauvreté. Alors, il y a des moments de gloire. On a glorifié Jésus. L'entrée triomphale à Jérusalem. Hosanna. On l'a glorifié. Ça n'a pas duré. La transfiguration. Après le miracle de la multiplication des pains. Des gloires passagères. Mais c'est pas ce qui domine. C'est important puisque ça annonce la gloire du ciel. C'est pour ça que je dois en parler. Je ne l'exclus pas du tout. Mais je dis que sur la terre, la théologie mystique est commandée par la croix. Alors j'ai mis trois glorieuses pour qu'on ne sépare pas. Mais elle n'est pas commandée par la gloire. Alors là, je crois que ce serait en opposition avec toute la grande théologie des saints. Mais comprenons, semence de gloire, la grâce. Dans l'Apocalypse, le cheval blanc qui annonce la gloire. Puisque le blanc, vous savez bien, c'est la couleur symbolique de la gloire, de la victoire de l'amour. C'est pas la pureté. Ça, c'est la moralisation du symbolisme du blanc. Mais c'est le symbolisme de la gloire, de la victoire de l'amour. Alors, tous les ordres religieux, à un certain siècle, étaient blancs. Les ordres religieux commençaient par noir. Maintenant, c'est gris. Curieux ces choses-là, c'est très curieux. Il y a des espèces de ça manifeste quelque chose, ça n'exclut pas le blanc, mais c'est quand même curieux. Gris bleu, bleu gris. Avec toutes les nuances. Oui, dites.
Il y a quand même quelque chose de curieux, après la résurrection,
mais c'est sûr, la résurrection. Pourquoi Jésus apparaît-il? C'est d'ordre charismatique, les apparitions. Pour l'utilité des disciples. c'est pas pour nous donner une nouvelle télé, pas du tout. La gloire n'est pas sur la terre. Elle existe. Je dois en tenir compte, absolument. Mais je ne peux pas vivre au rythme de la gloire. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Elle apparaît. Et Jésus confirme. Il n'ajoute rien. Confirmation. C'est pour ça que tout s'achève avec la blessure du cœur. L'analogie du beau en métaphysique, ça vous aidera à comprendre ça. Ceux qui veulent faire du beau un transcendantal, c'est une tentation pour moi. La tentation néo, la tentation, je veux dire, du platonisme, du néo-platonisme. Et cette tentation est une tentation extrêmement profonde. Je crois qu'elle est analogue à la philosophie, à la tentation du messianisme temporel en théologie. Il y aurait une analogie extrêmement intéressante, parce qu'elle se rencontre tout le temps. Et c'est une tentation permanente. Je porte en moi cette nostalgie de la gloire. Alors là, tout à fait d'accord. Oui. Et le poète est là pour l'affirmer, la proclamer. Et l'art est là pour le proclamer. Je le considère comme quelque chose de très important. C'est essentiel. Et ce n'est pas au même niveau que le bien. Ce n'est pas au même niveau que l'amour. Tandis que dans Platon, le beau et le bien, kalos kagaredon, ça s'identifie. Le banquet. Oui. Je crois que pour bien comprendre ça, il faut faire l'analyse philosophique critique. Analyse critique. De la notion de beau. J'ai essayé de la faire, pendant, mais je dis pas que c'est parfait. Hein, c'est la notion du beau. Et là, saint Thomas peut nous aider. Mais je vois beaucoup de thomistes modernes, les néo-thomistes de Louvain. Le thomiste de Louvain était très particulier. Maréchal. Et Balthazar. Et ils veulent faire du beau une notion transcendantale. Oui. Alors si le beau était transcendantal, la gloire serait équivalente à l'amour. Mais c'est un petit peu ce qu'on disait, la différence entre manifestation de la vérité et la vérité. Alors, nous allons continuer. Mais vous avez raison de rappeler que dans la théologie mystique, il y a tout cet aspect de la gloire. Oui. Et l'Apocalypse le montre. Je vous dis, sur la terre, Jésus a commencé par une vie cachée. Là, il ne faut pas le prendre uniquement. Vous voyez, successivement. La vie cachée demeure toujours. Il a commencé par la vie cachée. Et dans la vie cachée, il y a le désert. Et le désert fait partie de la vie cachée. Puis, il y a l'apostolat. Et la vie apostolique se termine par la croix. Et la croix s'achève dans la gloire. Mais il n'est plus de ce monde. Alors la gloire est présente, mais elle ne se manifeste pas pleinement dans ce monde. Oui. Alors la liturgie doit être une liturgie joyeuse, une liturgie de la sagesse de la croix et liturgie de la gloire. Toujours rappelant, puisque l'Eucharistie est viatique. Mais voyez, l'Eucharistie, qui est le sacrement par excellence, c'est pas glorieux. La gloire est cachée. Très caché dans le silence. Mais l'Eucharistie est liée à la gloire. C'est pour ça que c'est là la note très particulière, je crois, de l'art chrétien. C'est ça qu'on devrait étudier très près pour voir le fondement de l'art chrétien, le passage de la croix à la gloire, et dans l'Eucharistie, et dans le mystère de Jésus. Et alors comme l'art est peut-être prophétique, il peut annoncer la gloire, mais dans une présence.
Est-ce qu'on ne doit pas distinguer la gloire et la manifestation de la gloire ?
Non, la gloire est toujours la manifestation.
Vu que dans le Christ, la gloire est la victoire de l'amour,
oui.
Et donc on pourrait dire que dès sa conception, le Christ vit dans la gloire.
Alors vous donnez à la gloire un nom tout à fait différent, pourquoi on va dire l'amour ? La victoire de l'amour est présente à la croix, mais elle n'est pas manifestée. Elle est très cachée. À la croix, ce qui est manifesté, c'est l'échec. Voilà ce qui est manifesté. Et la manifestation de la victoire de l'amour sera manifestée par la résurrection. Et Jésus n'est plus de ce monde. Oui. Je crois, creusez bien, oui. C'est bien, le point de vue de la gloire implique toujours une manifestation. Mais quand vous êtes caché, vous vivez dans l'amour. C'est pas glorieux. Bon, oui.
Comment faut-il regarder donc la gloire que j'avais devant la création ?
C'est la gloire de Dieu, ça. Dieu est essentiellement glorieux.
Mais comment peut-il y avoir une victoire avant qu'il y ait une lutte ?
Victoire de l'amour. J'ai une fois essayé d'expliquer ça. Pour nous, la victoire de l'amour, ou toute victoire, nous permet de comprendre la gloire. En Dieu, il n'y a pas de lutte. Il y a l'amour. Quel est le moment où l'amour est le plus, si j'ose dire, pour nous, dans notre manière de regarder la très sainte Trinité ? Parce que si je vivais la très sainte Trinité, je ne ferais pas de théologie. Vous voyez ? Dieu ne fait pas de théologie, c'est l'homme qui fait une théologie. Pour essayer de comprendre le mieux qu'il peut le mystère de Dieu. Quand j'essaie de comprendre le mystère de la très sainte Trinité, à quel moment puis-je voir, j'allais dire, la gloire dans toute sa splendeur, l'amour dans toute sa splendeur. C'est-à-dire la gloire.
Le Père, le Fils.
Voilà. Qui inspire l'amour. Vous voyez ? C'est dans ce sens-là. Il n'y a pas eu de lutte, c'est évident. C'est bien mieux qu'une victoire. Mais c'est. La victoire est toujours un peu quelque chose du côté de l'opération. Donc il faut purifier ce point de vue. Victoire de l'amour. Il faut purifier que toute gloire. Si je prends l'expérience, hein, revenons toujours à l'expérience, la gloire comme telle, c'est toujours une conséquence d'une action magnanime, héroïque, d'une victoire, dans tous les domaines. Le prix Nobel, victoire, c'est du côté de la vérité, on a découvert quelque chose. La grandeur de ce savant qui dépasse les autres d'une tête. Il a découvert quelque chose que les autres n'avaient pas découvert. Oui, c'est une victoire. Je crois que la gloire est toujours liée à la victoire, pour nous. Alors on essaiera de comprendre qu'est-ce qu'il y a d'analogue à la gloire qui peut être transportée en Dieu. Pour ça, ayez une vision de sagesse. Qu'est-ce que c'est que la gloire dans une vision de sagesse ? Puisque vous ne pouvez saisir la ratio analogique dans toute sa pureté que dans une vision de sagesse. Et donc vous pouvez la transporter, la voir en Dieu que par la vision de sagesse. Tout est purifié par la vision de sagesse. Et il faut bien voir que cette vision de sagesse, au point de vue philosophique, n'est enseignée nulle part. Ça, je peux vous l'affirmer. On touche ça un tout petit peu, les bons philosophes disent « Oh, c'est de la théologie. » Non, c'est pas de la théologie. C'est seulement l'intelligence humaine qui ayant découvert Dieu peut l'état embryonnaire, ce que je vous ai dit. Puisque c'est plutôt une inspiration, une recherche. C'est une recherche. Et moi, j'aimerais beaucoup que cette recherche, nous la comprenions tous, et que l'école Saint-Jean soit dans cette recherche. Puisque nous disons que nous respectons les trois sagesses. C'est dans notre règle de vie. Sagesse philosophique. Vous comprenez pourquoi il y a sagesse philosophique. Condition sine qua non pour qu'il y ait une théologie scientifique. Sagesse théologique, résultat. Sagesse mystique. Donc les deux extrêmes de la théologie. Et si j'explicite ces trois sagesses, je crois, si vous trouvez une autre explicitation, vous me la direz. Parce que quand on est jeune, on a des intuitions que les vieillards n'ont plus. Donc, les vieillards ont une autre sorte d'intuition, un autre sort de perspicacité de l'intelligence. C'est différent. Pour la théologie, je crois que la sagesse implique la vieillesse. Je crois. Pour les mathématiques, non. C'est la différence. Donc, c'est intéressant de voir comment s'explicite organiquement la théologie face au mystère de la parole de Dieu, à toutes les dimensions de la parole de Dieu. La théologie scientifique n'est sûrement pas exhaustive. Pour certains thomistes, et là je ne suis pas du tout d'accord, pour certains thomistes, la somme théologique de saint Thomas égale théologie. Ce n'est pas vrai pour saint Thomas. Donc on est un mauvais disciple quand on fait ça. C'est pour les commençants. Et saint Thomas lui-même dit qu'il y a une théologie mystique. Et tout l'effort qu'il y a eu depuis un certain nombre d'années sur le mystère de la parole de Dieu, effort qui a été, il faut bien le dire, au portrait de Thérèse Sessé. La séparation de Luther de l'Église a fait que les luthériens, les protestants, se sont rabattus sur le mystère de la parole. Parce que l'Eucharistie, plus ou moins acceptée, et le Saint-Père, non. Donc il ne restait qu'une seule alliance, l'alliance avec la parole. Ils ont développé ça énormément. Ils ont secoué les catholiques, là, qui, au fond, s'endormaient un peu. Ils avaient un avoir. Ils avaient la théologie de saint Thomas, ils avaient la théologie des pères, c'est suffisant. Alors, il y a eu un effort énorme du côté de la parole de Dieu, ça, on ne peut pas nier. C'est là où l'exégèse, c'est là où l'école biblique de Jérusalem a apporté énormément. J'aimais beaucoup de parler de ça avec le père de Vaux. Mais le père de Vaux me disait, ça s'est divulgué trop vite. On n'a pas eu le temps de suivre. Alors ça s'est mal divulgué. C'était la vie du père de Vaux, presque à la fin de sa vie. Alors lui, c'était l'archéologie. Mais ça faisait partie de cet effort de travailler la parole de Dieu. Alors, vous voyez, il y a eu un effort énorme dans l'Église. D'où la tentation de dire l'exégèse remplace la théologie. Tentation protestante. Il faut appeler les choses par leur nom. Tentation protestante. Donc de supprimer l'effort de l'intelligence philosophique, métaphysique. Donc on supprime la théologie scientifique. C'était bien du temps de saint Thomas. Aujourd'hui, il suffit d'avoir une bonne exégèse. Une exégèse qui déborde le problème de l'exégèse, qui n'est plus uniquement une exégèse, qui très souvent devient une théologie. Alors, c'est très vrai, je comprends très bien ça. Quand on a beaucoup, beaucoup travaillé Saint-Luc, les épîtres de Saint-Paul, on fait une théologie, petite synthèse, sur la manière dont Saint-Paul regarde le Christ. La manière dont saint Paul regarde l'Église. C'est très intéressant. Ça m'intéresse toujours beaucoup. La manière dont, dans l'Épître aux Hébreux, on regarde le sacerdoce. Puisque c'est une des dernières choses importantes. Et ainsi de suite. Bon. Tout cet effort, ce serait du reste très intéressant à l'analyser au point de vue critique. Ce serait très intéressant. De voir exactement qu'est-ce qu'il y a comme apport par rapport à la parole de Dieu. Puisque la théologie, nous l'avons dit, la théologie, c'est la foi, le croyant, qui reçoit la révélation. La révélation est donnée en premier lieu au croyant. Le théologien est serviteur de l'Église. Il est donc serviteur des croyants. Jamais l'oublier. La parole de Dieu demeure toujours dans son intégrité, telle qu'elle est. Mais je peux essayer de mieux la saisir, de la saisir plus profondément. Et l'exégèse est un service d'Église, comme la théologie est un service d'Église. Mais un service d'Église qui se spécialise par rapport à la parole de Dieu, par rapport aux écrits, par le lien entre la parole vivante et l'écrit, par rapport à l'écrit et la tradition, par rapport au contexte historique dans lequel est donné ça, par rapport à la signification des mots employés dans l'écriture. Donc, il y a différents aspects de l'exégèse, du reste. Ce serait très intéressant, ça, de bien voir. Parce que l'exégèse se cherche toujours, comme la théologie se cherche toujours. Puisque c'est un serviteur. Il n'y a pas de synthèse au sens absolu. Il n'y a pas de synthèse. On dit la synthèse d'homme, c'est tout à fait faux. Il n'y a pas de synthèse. On est ordonné à la vision béatifique. Et la vision béatifique n'est pas une synthèse, grâce à Dieu. C'est Dieu lui-même que nous voyons. Donc il n'y a pas de synthèse théologique. Quand on a dit synthèse, c'est une erreur. On ne peut pas dire ça. Parce qu'après une synthèse, on se repose. Il y a des visions partielles, plus ou moins partielles, plus ou moins organisées. Vous voyez? C'est plus ou moins organisé. Ça, c'est très vrai. Mais c'est une recherche commune de tous en vue de la vision béatifique. La finalité de la théologie, c'est la vision béatifique. Et donc le critère de ce qui est juste en théologie, c'est la vision béatifique. Science subalternée à la science, c'est ça. Je vous l'ai dit au début. Et serviteur de l'Église. Oui, au-delà du théologien, il y a le croyant. Le croyant me donne une noblesse plus grande que d'être théologien. C'est pour ça que le théologien ne doit jamais avoir de mépris vis-à-vis d'un croyant qui n'est pas érudit, qui n'est pas savant, qui n'est pas théologien, mais qui a une très grande foi. Qui a une foi magnifique et qui a reçu des dieux. De Dieu des Lumières intérieures. Le croyant passe avant le théologien. Ça, il faut en être convaincu de ça. Vous voyez, c'était la réflexion que me faisaient des étudiants. Je les ai déjà faites. Il faut de temps en temps se la refaire. Comment se fait-il qu'au noviciat, on ait une très grande ferveur et qu'au bout de quelques années de théologie, on ait moins de ferveur? On a l'impression d'être moins croyant. Il y a un certain scepticisme qui s'est introduit. Scepticisme critique. On n'a plus la même simplicité. Or, Jésus nous demande d'être simple comme des colombes. Hein, ça. Et d'être prudent comme des serpents. Jésus nous demande, il le dit publiquement, je te rends grâce d'avoir révélé ces choses aux petits et non pas aux sages et aux prudents. Quand même, l'intégrité de l'Écriture. Donc, le croyant, c'est celui qui vit dans cette petitesse du croyant. Parce que la foi, saint Thomas nous le dit, ça c'est une précision théologique de saint Thomas, la foi n'est pas une vertu intellectuelle. Vertu théologale, c'est bien plus. La foi n'est pas faite premièrement pour perfectionner mon intelligence, mais pour la fortifier et pour l'ordonner vers la vision béatifique. Mais elle ne m'apporte pas, voyez, des connaissances qui me permettront de dire, grâce à la foi, je suis intelligent. Je pourrais dire ça. Grâce à la foi, je suis devenu intelligent parce que j'ai chassé de moi toute paresse. Et j'ai eu une ardeur à faire de la philosophie, j'ai eu une ardeur à apprendre les langues, j'ai eu une ardeur à faire de la philologie et de l'histoire. Grâce à la foi. Parce que je voulais à tout prix voir cette chose. Mais c'est pas la foi au sens rigoureux. La foi m'oriente vers la vision béatifique. Il faut bien comprendre ça. Moi, je crois que ça, c'est capital. Et la théologie est douce. La théologie est inférieure à la foi. C'est sûr. Ma certitude de foi est plus grande que ma certitude de théologien. Parce que ma certitude de théologien repose sur une évidence acquise. Et ma certitude de foi repose directement sur l'autorité de Dieu. Il ne faut pas que la théologie diminue. Au contraire, diminue le croyant. Au contraire, le théologien doit, par tout son effort, exalter la noblesse du croyant. Il est de race divine. Il a quelque chose en lui qui est supérieur à tout, qui est plus grand que tout. Très bien, le théologien, tout à fait d'accord. Et ça permet de mieux comprendre ce qu'est le Saint-Père, ce que sont nos évêques. Ils sont peut-être beaucoup moins intelligents que nous. Ils n'ont aucune espèce d'importance. Ils sont revêtus de quelque chose qui est plus grand que moi. Au point de vue de la foi. Ça ne veut pas dire qu'ils seront meilleurs théologiens parce qu'on est évêque. Non. Ils resteront des théologiens selon leur tempérament humain. Les deux pieds sur terre. Mais quand il s'agira de la foi, ils auront une grâce de gardien de la foi. Ils sont de bons évêques. Et qui demandent à Dieu d'être parfaitement évêque, ben ils auront une acuité plus grande que Dieu leur donnera. Dans leur service de dans leur service de docteur de l'Église. Gardien de la foi. C'est difficile de maintenir ça quand on est un théologien. C'est très difficile parce qu'on est toujours séduit par l'évidence, par l'intelligence. C'est une terrible séduction. Mais il faut le maintenir à tout prix, ça. Autrement, la théologie va diminuer notre foi. Bon, une fois qu'on a compris ça, on comprend que toute la philosophie doit être au service de la foi et de la parole de Dieu. L'homme est assumé par la grâce. Tout ce qu'il y a d'humain en moi doit être assumé par la grâce. Toute recherche de la vérité doit être assumée par la foi et au service de la foi. Mais il faut comprendre que toute vérité n'est pas immédiatement assumée. Il faut une vérité qui rejoint la sagesse. Parce que la foi commence tout de suite par le mystère de Dieu. Et elle voit tout dans la lumière de Dieu. C'est le propre de la foi. Et c'est le propre de la théologie. Tout regard théologien est toujours dans la lumière de la foi. C'est là le problème. Alors vous voyez, les degrés du savoir, on pourrait faire ça, ce serait très... vous ai déjà dit, vous reprendre les degrés du savoir de Marina. Et les reprendre dans cette manière. Comment? Ce seraient les degrés de la sagesse humaine. Comment chaque connaissance, une connaissance biologique par exemple, comment peut-elle atteindre et être assumée par la sagesse? Une connaissance philologique, les sciences humaines, une connaissance historique, une connaissance artistique, comment peut-elle être assumée par la sagesse? Entre la science et la sagesse, il y a la philosophie.